Les mots s'écrivent, les mots se parlent, les mots s'écoutent. Les mots prennent tout leur sens et deviennent une mosaïque des rubriques. Les mosaïques des vies, votre émission en direct, le premier jeudi du mois à 11h et rediffusion le dimanche suivant à 16h.
Les mots, les mosaïques.
Les mots,
les mosaïques,
les mosaïques, les mosaïques des vies.
Bonjour à tous. Je commencerai l'émission ce matin en vous citant le peintre Pierre Bonnard qui a dit « J'espère que ma peinture tiendra sans craquelure. Je voudrais arriver devant les peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. » On va donc parler un peu de peinture ce matin, mais beaucoup de restauration. En effet, j'accueille en direct dans l'émission ce matin Claude Lera, qui est restauratrice de tableaux. Bonjour Claude.
Bonjour Evie.
Merci d'être venue au studio pour parler de votre très beau métier de restauratrice.
Eh bien, merci à vous, Evie, de m'avoir invitée pour parler de ce métier, effectivement, que je pratique depuis 14 ans. Je fais de la restauration conservative et esthétique de tous les tableaux peints à l'huile, tableaux de chevalet, peints à l'huile sur tous les supports qui peuvent exister, puisque les peintres ont peint effectivement sur plein de supports différents. Donc ça va de la toile au carton, le panneau de bois, le plâtre quand il s'agit de peinture murale, le cuivre, voilà. Et donc je suis vraiment passionnée par ce métier. Je suis heureuse d'en parler aujourd'hui.
Et également d'art polychrome.
Alors l'art polychrome, effectivement, il s'agit souvent de statues en bois ou de statues en bois ou en plâtre. J'en ai restauré quelques-unes, ou ça peut être aussi un petit meuble, un plateau, des choses comme ça. De moins qu'il y a de la polychromie de couleurs, je suis amenée à restaurer ces objets.
En quoi consiste votre métier de restauratrice, Claude ?
Alors mon métier consiste à prendre en charge des œuvres abîmées ou ayant subi le temps afin de leur redonner vie. Voilà. Donc pour exercer un métier comme celui-ci, il faut surtout avoir des qualités de patience, il faut être minutieux, et surtout la patience parce qu'une restauration peut prendre des mois. Quelquefois,
effectivement.
On rencontre quelquefois quelques difficultés malgré le fait qu'on ait préparé, qu'on ait fait un constat d'état et qu'on sache exactement ce qu'on doit faire comme intervention. Mais c'est vraiment, il faut être passionné par les arts aussi, il faut avoir des connaissances en histoire de l'art un petit peu, il faut se documenter énormément.
Et votre travail est basé sur une analyse minutieuse de l'œuvre que vous allez restaurer.
Voilà, c'est ça. Quand le tableau arrive à l'atelier, les clients me déposent des tableaux et soit je fais un devis sur place avec eux parce que le tableau n'est pas très abîmé, donc je peux me permettre de leur dire il y a une petite intervention et on définit ensemble le montant. Ou alors je garde le tableau, je fais une feuille de dépôt et là je prends le temps, je fais un constat d'état, un diagnostic. Et ce diagnostic va me permettre ensuite de lister les interventions. Et je saurai exactement si je vais devoir faire une grosse restauration conservative ou préventive. C'est important pour que le tableau puisse durer dans le temps. On estime qu'il y a une restauration par siècle. Donc il faut quand même réfléchir à faire un travail où on respecte en plus une certaine déontologie, c'est-à-dire que toutes les techniques et tous les matériaux utilisés seront durables dans le temps, ils seront réversibles et ils seront stables. Il faut penser aux futures restaurations. C'est-à-dire que le tableau peut revenir un jour dans l'atelier d'un autre restaurateur. Donc il faut qu'il puisse intervenir et enlever ce qui a été fait, sans problème. Donc voilà.
Il faut se projeter, effectivement.
Il faut se projeter,
voilà.
C'est ça.
Et
moi, il m'est arrivé d'avoir des tableaux que j'avais restaurés qui sont revenus à l'atelier parce qu'il y a eu des accidents. Donc, parce que le tableau s'est décroché du mur alors que j'avais restauré auparavant. Donc il revient totalement abîmé et là, il faut encore intervenir et enlever ce qui a été fait. Et c'est vraiment quand même très difficile pour le client comme pour moi.
Et effectivement, j'ai vu, Claude, sur votre site, et c'est impressionnant, une toile, je dirais presque avant et après. C'est-à-dire que cette toile représente un arbre, c'est une toile...
Une toile de Georgette Agutte,
voilà.
C'est le châtaignier, je crois, de Georgette Agutte.
Oui. C'est impressionnant.
Oui.
On voit, pardon Claude, on voit cette toile, mais totalement usagée, Et à la fin, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a eu, ce cheminement pour parvenir finalement à cette restauration.
Là, on est vraiment dans le cas d'une grosse restauration, tout d'abord conservative, puisque le tableau était perdu dans une cave, on me l'avait apporté, c'est une association qui me l'avait, de la maison Georgette Agut à Bonnières, qui me l'avait confié, et il a vraiment fallu sauver cette toile, il y a eu un rentoilage d'ailleurs à la colle de pâte, mais d'abord il fallait le nettoyer, enlever la moisissure, il fallait faire une incrustation de toile, de pièces, dans la lacune pour combler un peu comme un puzzle. Voilà, on fait un peu comme un puzzle, hein, on dessine, enfin c'est très technique là, je vais pas tout expliquer comme ça, mais et c'est très long. Et ensuite, une fois le rentoilage terminé, j'avais acheté un châssis neuf, je l'ai retendu, et ça a duré, hein, ça dure dans le temps, je ne fais pas tout en quelques semaines, je prends vraiment le temps d'essaichage et le temps... Et après,
bah, voilà.
Surtout les retouches, après la réintégration illusionniste, il faut le temps pour faire, pour faire la retouche, d'autant que là, il manquait une partie. Il manquait, bon, ceci dit, c'était un arbre, je n'avais pas grand-chose à imaginer, je connaissais la palette du peintre, j'ai repris sa palette... Et j'ai imaginé comment pouvait être ce châtaignier. Bon, effectivement, sur la photo, on ne se rend pas trop compte. On dit, oui, on ne voit pas l'avant-après. Bon, voilà.
Si, je l'ai vu. Moi, oui. Ça m'a impressionné ouais. Parce que la toile... Puis on voit, vous avez pris des photos du dos de l'arrière de la toile. Mais écoutez, c'est stupéfiant parce que cette toile est presque bonne à mettre à la poubelle.
Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, non, je me trompe. On voit bien avant-après, pardon.
Oui.
C'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est quand on voit le tableau de près... On se rend compte qu'il y a une restauration quand même, parce qu'au niveau de la retouche, c'est illusionniste. Donc de loin, on ne s'en rend pas trop compte, mais de près, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a eu de la retouche effectuée. C'est ce qu'on appelle la retouche illusionniste, tout simplement.
Et quelle est votre clientèle ?
Alors, ma clientèle est composée principalement de particuliers, de personnes qui ont un tableau de famille. Bien souvent, le tableau de la grand-mère ou du grand-père ou des parents, qu'ils ont toujours vu dans leur maison, enfin, dans la maison d'enfance. Et soit ils en ont hérité, soit on leur a, enfin, voilà, ils ont récupéré ce tableau. Donc, ils me l'apportent avec beaucoup de... comment dirais-je, d'émotion, parce qu'ils aimeraient bien que je le restaure, mais à côté de ça, quand ils sont d'accord sur le devis, ils me le laissent, mais en ayant crainte, ils me demandent toujours de prendre soin, d'y faire attention. Alors je les rassure, et bien sûr, quand ils le récupèrent, là, ils sont conquis, parce que moi, je vois vraiment l'émotion dans leurs yeux, quoi, parce qu'ils retrouvent le tableau de leur enfance. Ensuite, il y a le particulier qui va acheter des tableaux. Alors là, lui, c'est la personne qui va aller en salle des ventes, par exemple, ou tout simplement sur Internet, ça se fait. Moi, je leur déconseille un peu, mais bon, ils le font. Hein. Et puis, après, il y a les brocanteurs, les marchands d'art, les antiquaires qui me font... il y a aussi les encadreurs qui me font travailler. Parce que certaines personnes apportent un tableau chez l'encadreur, et l'encadreur m'appelle, donc c'est on fonctionne comme ça, voilà. Donc je vois pas toujours le client. Moi j'aime mieux le voir hein, quand même, mais je vois pas toujours le client. Et puis après il y a les municipalités, les collectivités, les associations. Et là ce sont des gros chantiers. Là j'ai eu des chantiers d'église, j'ai eu le chantier du château de Villarceau. Là on part sur quelque chose de plus important.
Qui a pris plusieurs mois, j'imagine.
Ah ben là oui. Alors, le Villarceau, ça s'est étalé sur 4 ans parce que j'ai pris une année de pause et puis il fallait aussi trouver le budget dans le sens où c'est l'association qui payait ce travail, donc c'était des appels aux dons, mais j'ai fait sur 2 ans à peu près en travaillant. Le château ouvre au mois d'avril, j'ai fait de avril à décembre, donc j'ai fait 2 ans et demi de travail sur ce très 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 grand tableau qui est terminé, qui va être présenté d'ailleurs au mois de septembre. Cette année, aux Journées du patrimoine, le conservateur du patrimoine, M. Labussière, veut vraiment présenter ce tableau. Donc je suis ravie, parce qu'on va pouvoir expliquer tout ce qu'on a fait. Les visiteurs veulent me rencontrer dans les cuisines du château, les anciennes cuisines, me rencontraient, je leur expliquais la restauration. Après, il y a eu le chantier des mureaux. Ben là, c'était effectivement pareil, j'ai dû faire 2 mois et demi sur des échafaudages. Bon, c'est un peu long, mais c'est tellement passionnant que je m'en lasse pas. Et puis, il y a eu d'autres petits chantiers, après, qui durent 3 jours, 15 jours. Là, on est sur, un escabeau. Voilà, c'est autre chose. Mais ça reste... Par contre, quand on travaille sur des peintures murales, c'est peint sur le mur, c'est à la verticale. Et là, c'est vrai qu'il faut réfléchir différemment pour les traitements, puisqu'on n'a pas le tableau à plat. Donc, il faut vraiment... se poser d'autres questions. Mais à chaque tableau, on se pose des questions, de toute façon. On a toujours des traitements plus ou moins différents en fonction des tableaux.
Et chaque restauration est unique, ne ressemble pas à une autre.
Tout à fait. C'est vraiment, chaque cas est unique, chaque tableau est un cas. Un peu. Et puis bon, il y a des tableaux, là aussi, quelquefois, tous les sujets ne me plaisent pas dans la peinture. Tous les styles et tous les sujets ne me plaisent pas. Donc quelquefois, j'ai un peu de mal, et ensuite, je ne vois que le sujet restauré. Et je me dis, et même certains clients me disent, me demandent, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il vous plaît? Je leur réponds, je leur dis non, pas particulièrement, mais voilà, soit c'est une belle facture quand même, il est bien peint. Mais après, une fois que je suis dans mon travail, je me dis, il est malade, je suis un médecin qui soigne son malade. Donc les médecins, ils soignent tout le monde. Donc voilà.
Exactement.
Donc j'oublie que le tableau.
Sans parti pris.
Voilà, j'oublie que le. Et puis alors pareil, s'il y a une signature, parce que j'ai des tableaux avec des belles signatures, je les traite de la même façon que le tableau du peintre inconnu qui va arriver dans mon atelier. Mmh. Moi, je regarde le sujet à restaurer, enfin le travail à faire sur un tableau. Je m'occupe pas de la. Enfin, c'est important, bien sûr, s'il y a une signature, je suis fière. Mais pour autant, bon, par contre, la signature, je fais très attention en nettoyant de la préserver. Mais je donne pas plus de chance à un très, très beau tableau. Voilà.
Oui, par exemple, un peintre connu d'un illustre inconnu. Vous ne faites pas de différence.
Non, voilà, c'est ça. Oui.
Et comment vous êtes venue à pratiquer ce métier, Claude?
Alors, c'est une longue histoire, oui. C'est-à-dire que j'avais un métier... J'étais salariée, j'avais un emploi administratif dans une grosse entreprise pendant de nombreuses années. Et puis, il y a eu un plan social, donc un licenciement économique. Et là, je me suis posé la question. J'avais toujours aimé dessiner depuis que je suis toute petite. J'adore le dessin. Alors, je ne suis pas du tout née dans un milieu où on m'a élevée au niveau culturel. Parce que je suis la seule à avoir aimé et la peinture et le dessin, d'ailleurs. Et là, je me suis dit, je faisais des petites expositions. Mais je n'étais pas quand même une peintre. Je faisais beaucoup de copies, donc je n'étais pas plus fière que ça. Mais je me suis dit... Ah, ça serait bien de travailler dans un métier en rapport avec la peinture. Et puis, ce métier est sorti comme une évidence de mon esprit, parce que j'avais vu des années auparavant une émission à la télé, je ne sais plus sur quelle restauration, et je m'étais dit, ça doit être drôlement bien de faire ce métier-là. Donc, je me suis dit, voilà, je vais tenter ma chance. Et on m'a dit, dans l'entreprise, voilà, prouve que tu peux le faire, trouve ta formation. Et derrière, il y avait un budget, bien sûr, pour m'aider. Et donc, j'ai trouvé un atelier à Paris, étant adulte, où on pouvait faire une formation qui a duré 4 ans au total, formation théorique et pratique, avec des cours de restauration, bien sûr, de conservation, mais surtout et aussi des cours de copie à l'ancienne, les techniques de la copie, l'histoire de l'art, les cours de dessin académique, un peu de physique-chimie, ça aussi, bon, c'était un peu plus compliqué, mais ça permet aussi de comprendre certaines choses.
Oui, par exemple, j'imagine que la physique et la chimie, pour justement les pigments, peut-être.
Oui, c'est surtout, moi c'est plutôt au niveau des produits, des solvants, sont compatibles ou pas entre eux, mais c'est vrai que...
Bon, c'est de la chimie.
Oui, c'est ça. Et puis j'ai fait cette formation, et puis j'ai eu la chance de pouvoir participer à un chantier de restauration avec mes professeurs dans une église, et ça c'était quand même une très grande chance. Ensuite, j'ai fait un stage chez un artisan restaurateur qui habitait par chez moi, et là ça m'a permis de découvrir aussi d'autres technique, puisque lui était un ancien restaurateur, donc j'ai pris ce qui était intéressant à prendre et je lui ai donné aussi des techniques qu'il ne connaissait pas. On a fait un bel échange, et puis voilà. Puis un jour, j'ai ouvert mon atelier.
Donc vous êtes partie d'une reconversion totale.
Totale, oui.
Et je trouve que c'est un bon exemple, Claude, de votre parcours, parce que parfois les licenciements économiques sont vécus comme des drames.
Oui, c'est vrai.
Et bien, je suis heureuse pour vous que ça ait été l'occasion de rebondir et de faire un métier qui vous passionne.
C'est sûr. C'est vrai que je n'ai jamais regretté, je peux le dire, je n'ai jamais regretté d'avoir quitté cet emploi administratif. J'ai aussi j'ai eu la chance de pouvoir le faire par rapport à ma situation familiale, hein, c'est pas facile. Mais c'est un gros investissement personnel malgré tout. Hein. J'ai quand même failli baisser les bras à un moment donné en me disant est-ce que je fais pas une erreur. Et j'ai une amie qui n'est plus là aujourd'hui, qui est décédée, mais qui m'avait dit à cette époque non, je veux que tu ailles jusqu'au bout, je veux pas que tu regrettes. Donc fais-le.
4 ans, c'est lourd.
Voilà, c'est vrai. C'est très lourd, ouais. C'est très long, mais j'avançais avec cet objectif d'ouvrir un atelier. et d'être indépendante. Je voulais vraiment avoir mon activité personnelle indépendante. Bon, c'est pas toujours facile, mais au moins, j'ai réussi à le faire. Et je regrette pas. Je peux arrêter aujourd'hui, je regretterai jamais.
Quelles sont les contraintes de votre métier ?
Alors, les contraintes, c'est le fait déjà, comme on est un travailleur indépendant, on travaille seul. Donc, c'est pas parfois difficile. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer entièrement. Il faut savoir être polyvalent, organisé. Il faut avoir... Il faut prospecter. Il faut prospecter pour trouver... Bon, surtout au début, pour trouver sa clientèle. Ça veut dire qu'il faut faire des salons. Il faut vraiment rencontrer des gens. Il faut échanger.
Vous faire connaître.
Se faire connaître. Il faut faire sa publicité. Que ce soit de la publicité par support, des flyers. Enfin, il faut savoir faire un peu de tout. Parce que moi, je faisais moi-même mes cartes de visite. Enfin, on apprend un peu de tout. Il faut savoir faire sa gestion aussi. On gagne de l'argent, mais il ne faut pas tout dépenser. Donc, il faut savoir être gestionnaire,
voilà.
Comptable. Il faut gérer son atelier. Voilà, ce n'est pas toujours simple. Et puis, c'est un travail difficile sur le plan physique. Parce que je disais, quand je fais des chantiers, par exemple, les salons d'art, on emporte tous ces... On déménage son atelier quelque part, hein, et on travaille le week-end. Donc faut partir avec cet esprit. Mais il y a l'avantage aussi de rencontrer des tas de gens, on se crée un carnet d'adresses formidable, on rencontre plein d'artisans. Et voilà, ça aussi, ça fait partie du
bon
métier.
Et j'imagine, de toute façon, la passion de votre métier prend le dessus sur ses contraintes.
Tout à fait, voilà.
Mais
ça.
Il est important de montrer aussi à des personnes qui seraient désireuses de faire votre métier,
oui,
qu'il y a effectivement des contraintes physiques.
Oui.
On vous voit en photo sur votre site, effectivement, il y a des grands échafaudages. On vous voit également sur un escabeau, la tête complètement en arrière. Rien.
Voilà, oui.
Donc, oui,
physiquement, c'est un peu dur. Oui, j'avoue que parfois, je baisse pas les bras parce que je suis une battante, mais j'ai parfois envie d'arrêter, je le cache pas. Mais une fois que je suis. C'est tellement passionnant qu'une fois que je démarre mon travail, je vois plus la fatigue et je continue. Mais je reçois des stagiaires, hein, dans mon atelier et. Voilà, on parle de tout ça ensemble, je leur explique, elles le voient, hein, de toute façon, elles voient bien les avantages et les inconvénients de ce métier.
Nous allons faire, Claude, une petite pause musicale. Il s'agit d'une très belle chanson de Lizzie Ling, Un tableau troublant.
C'est un tableau troublant, comme un chanteur trop vert. C'est pas très ressemblant, mais qu'est-ce que ça peut faire? Oh, oh, puisque c'est beau. Pas un Rembrandt, mais c'est un tableau troublant. C'est peut-être la terre ronde comme une orange qui traverse le ciel. Du rouge au paradis, par-delà les nuances du soleil. Idées moroses qui sourient à l'envers. Pour mélanger du rose à nos vies de galère. Oh, 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 qu'est-ce que c'est beau. C'est un tableau troublant. Un coquelicot noir, tel que pensaient les lards, dessine la vie. Sur la palette des sentiments, c'est la vie. t'y voir.
Très jolie chanson. Eh bien, nous sommes en direct dans les Mosaïques des Vies où je reçois Claude Lerat, restauratrice de tableaux. Claude, vous avez un atelier qui se trouve à La Roche-Guyon, qui se nomme Secret d'Atelier. Et je vous invite tous à y aller parce que vraiment, j'ai vu des photos, c'est ravissant. À l'intérieur, c'est vraiment ravissant. Je m'y plairais beaucoup personnellement, mais bon. Et donc, Claude, peut-on aller vous rendre visite là-bas dans cet atelier?
Bien sûr, il n'y a pas de souci. L'atelier est vraiment ouvert au public. Bien entendu, j'ai quand même mis sur ma porte un petit mot, prendre rendez-vous. C'est surtout pour les personnes qui voudraient m'apporter un tableau. Je préfère qu'ils se déplacent en ayant pris rendez-vous. C'est inutile de venir avec un tableau si la porte est fermée, c'est le transporter pour rien. Par contre, dès que je suis dans l'atelier, que les personnes se promènent, elles s'arrêtent et je les invite à entrer si elle n'ose pas, et avec plaisir je partage mon métier, mon savoir. Ils sont très curieux souvent, je leur explique exactement comment on travaille, quelles sont les techniques utilisées. Et en plus, à La Roche-Guyon, nous nous sommes installés avec une amie qui est artisan relieur. Son atelier s'appelle l'atelier du livre 95. Et à nous deux, nous louons un rez-de-chaussée d'une ancienne maison qui est vraiment charmante, effectivement. On a chacune notre espace et on a baptisé cette maison la maison des artisans d'art. Voilà, parce qu'on trouve que... On aimerait d'ailleurs faire venir d'autres artisans exposer, c'est un projet... pourquoi pas, si on arrive à s'organiser avec la place. Et elle, Fabienne, donne des cours de reliure et des cours de cartonnage. Elle fait des petits stages. Donc, c'est un projet que j'ai également, puisque j'ai de la demande. Donc,
de faire des stages.
De faire des stages, d'initiation, hein, bien sûr. Hein, parce que je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a vraiment des personnes qui achètent leurs tableaux, qui adorent aller acheter des tableaux en salle des ventes. S'ils achètent des tableaux très abîmés, bien souvent, la restauration peut leur coûter cher. Donc, je leur dis, si vous voulez apprendre à vous-même restaurer, coller une pièce de renfort ou je sais pas, moi, nettoyer un tableau, autant le faire correctement. Donc, je peux faire des petits stages d'initiation.
Donc, ça, c'est un projet.
C'est un projet. Ça, c'est en train de mûrir, là, vraiment, oui.
Est-ce que vous auriez quelques petites anecdotes
Oui.
Alors, sur votre métier.
Des anecdotes, il y en a quand même pas mal. Il y a eu, par exemple, des clients qui me demandent des choses particulières sur leur tableau. Il y en a un qui m'avait demandé de couper sa toile parce qu'il la trouvait trop grande et le fond ne lui plaisait pas du tout. Voilà, il y avait un portrait et il n'aimait pas le fond. Et moi, je ne voulais surtout pas le couper, d'autant qu'il y avait...
Il fallait le rétrécir.
Alors, il fallait tout changer. Il fallait changer le châssis et surtout, il y avait une signature. Et je lui disais, mais si on le coupe, en plus, on va couper la signature. Puis moi, je refusais de faire ça. Un autre a voulu que j'ajoute une mouette sur une marine, mais il trouvait qu'il n'y avait pas assez. Et une petite mouette dans le ciel, et il a voulu que je lui peigne la bouée rouge, une bouée en rouge. Bon. Et un autre, là, carrément, m'a demandé de modifier une signature dans le bas du tableau.
Oui, voilà. Alors là, on peut carrément penser...
Voilà. Donc moi, de toute façon, dans tous les cas, quoi qu'on me demande, je ne le fais pas, je refuse. Ça ne correspond pas du tout à la déontologie du restaurateur. On respecte l'œuvre, on est intègre, et on n'ajoute rien et on n'enlève rien. C'est comme ça. Tout comme quand on nettoie, on ne doit pas enlever non plus. Et quand on retouche, on ne doit pas rajouter. C'est comme ça. Donc, je ne fais pas. Donc, soit je perds le client, tant pis. Soit je le garde en lui faisant comprendre comment on fonctionne. Voilà. Non, mais voilà, ça fait partie des petites anecdotes du travail.
Et quel est votre agenda ?
Alors l'agenda, il va y avoir très prochainement, les 6 et 7 avril, les journées européennes des métiers d'art, on appelle les GEMA. Donc Fabienne et moi avons décidé d'ouvrir nos ateliers tout le week-end au public, de 10h à 19h, je crois, le samedi et le dimanche. Donc nous avons envie aussi de partager notre métier. Donc pour cela, nous allons faire des petits ateliers ludiques avec des petits travaux pratiques. Les gens pourront venir, les visiteurs pourront venir. Et moi, par exemple, je vais préparer des petites toiles où ils pourront s'initier au nettoyage d'une couche picturale. Ils pourront peut-être poser un mastic, faire deux, trois retouches. Et Fabienne, de son côté, a envie de... Elle va acheter des petits carnets et elle va demander aux personnes désireuses de confectionner leur petit carnet avec la couverture, de fabriquer une couverture. Et voilà.
Et ces fameux petits ateliers, y aura-t-il une participation financière ?
Non, me concernant, non. J'ai pas envie de, j'ai envie de faire participer les gens gratuitement. Il n'y a pas de tarif. Fabienne, par contre, pour ses petits carnets, peut-être, elle fera au moins payer le carnet pour se rembourser la matière.
Mais la sinon, fourniture.
Voilà, la fourniture, oui. Voilà. Mais sinon, le reste... Après, ça peut amener justement à envie de... Ce qu'on voudrait, comme on veut lancer les stages, enfin, Fabienne le fait déjà, mais comme on voudrait vraiment avoir... plus de cours et de stages, je pense que ça peut donner envie aux personnes aussi d'en faire un peu plus.
Donc, découvrir complètement votre métier.
Voilà, c'est ça. Et puis ensuite...
Et susciter des vocations, peut-être aussi.
Alors peut-être. Bah, il est possible que ce jour-là, je rencontre beaucoup de jeunes filles. Souvent, ce sont des filles qui veulent faire ce métier. Et elles viennent avec les parents. Et comme on est référencé, les GEMA, on s'inscrit sur le site et on est vraiment référencé sur le site internet. Donc, on peut nous trouver facilement.
On rappelle les dates ?
Oui, 6 et 7 avril prochain.
D'accord,
Il suffit de se connecter sur internet en tapant GEMA, J-E-M-A. Et chercher les Val-d'Oise, La Roche-Guyon et tous les ateliers ouverts sont référencés.
Y aura-t-il des inscriptions préalables à ces ateliers ou pas?
Non, on n'a pas prévu.
Entrée libre,
voilà, on verra sur place. Et puis ensuite, il y aura un autre petit événement le 15 et 16 juin. Donc là, nous allons sortir de nos ateliers et les déplacer. C'est qu'on va participer toutes les deux à un salon d'art à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines. Ça se passera à l'espace Rémi Barra. Et c'est un salon qui va être assez important. Il y aura 35 artistes, de nombreux artistes peintres, sculpteurs, photographes et des artisans d'art qui vont exposer ce week-end-là. Donc, j'aimerais bien aussi rencontrer... on va en profiter encore pour mettre en avant nos demandes de stage.
Et vous ferez peut-être quelques petites démonstrations ludiques
Obligatoirement. Mmh. Quand on fait un salon, on fait de toute façon toujours de la démonstration. On n'est pas statique. Hein. Souvent, on nettoie un tableau, bien souvent. Enfin, moi, en me concernant. Mais il m'arrivait de montrer une pose de pièce, voire même un rentoilage une fois.
Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, votre métier est vraiment passionnant. Je vais vous laisser le mot de la fin pour vos coordonnées à toute personne désireuse de vous contacter, Claude.
Mais merci. Tout d'abord, merci Evie. Et puis, je m'appelle Claude Lera. Je suis au 4 rue Justinien Blasi à La Roche-Guyon, 95 780. Mon téléphone, c'est le 06 82 26 48 86. J'ai deux pages Facebook, la page secret d'atelier et la page La Vierge en Majesté qui concerne le tableau de Villarceau. Sinon, mon site, c'est www.claude-lera.fr ou clo-lera.fr et mon Gmail également, clo.lera@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup, Evie.
C'est moi qui vous remercie, Claude. Au revoir.
Au revoir.
C'était les mosaïques d'Evie. Mots croisés, mots échangés, mots composés, rien que pour vous. Evie sur Alternative FM 106.5.
Les mots, les mosaïques.
Les mots, les mosaïques, les mosaïques d'Evie.